Bonsoir, depuis un an que ça dure, vous devez commencer à le savoir. La relève, c'est tous les lundis à 18h, 15 minutes avec un jeune créateur. Aujourd'hui, on va parler de ce qui nous intéresse tous. Enfin, en tout cas, moi, ça m'intéresse en cette période de déconfinement. On va parler d'amour. Bonsoir Nine Antico, vous êtes avec nous au téléphone. Vous êtes illustratrice, BDiste.
Ouais,
vous dites BDiste,
autrice. Autrice, non, BDiste, ouais, c'est un peu.
Vous préférez
un
autrice.
Peu moins joli à entendre, mais enfin, autrice, c'est pas non plus. Mais on s'y fait.
Et surtout, vous êtes là aujourd'hui parce que vous êtes réalisatrice, pardon, d'un premier long métrage, Playlist, qui est sorti le 2 juin. Dernier, alors Playlist, c'est l'histoire de Sophie, une jeune femme de 28 ans qui galère dans sa vie perso et professionnelle. Elle cumule petit boulot de serveuse et CDD dans une maison d'édition. Vous avez eu envie d'écrire un film d'apprentissage comme il existe des romans d'apprentissage ?
Oui, et comme il existe déjà plein de films d'apprentissage que moi j'ai beaucoup aimé, comme Ghost World, Frances A, un autre film québécois qui s'appelle Tudor Nicole, qui est moins connu de Stéphane Lafleur. Mais oui, je m'inscris dans une lignée de films avec initiatique, avec une quête initiatique.
C'est quoi ? C'est l'occasion de revenir aussi sur vos propres origines, sur vos origines artistiques, j'ai envie de dire, là où tout commence pour vous ?
Oui, en fait, quand il s'agit de trouver un sujet à raconter pour faire un film, c'est des producteurs qui sont venus vers moi quand j'ai publié ma troisième BD qui s'appelait Girls Don't Cry. Ils voulaient l'adapter, cette BD, et moi j'ai dit que je voulais écrire quelque chose de nouveau. Et je me suis dit, qu'est-ce que j'ai très envie de raconter, qu'est-ce qui est très sensible en moi, qu'est-ce que j'ai vécu. Et pour moi, c'était cette période que j'ai plutôt vécue entre 20 et 25 ans, enfin en tout cas pour le truc professionnel, et que j'ai déporté dans le film à 25-30 ans. Et c'était donc ce moment de la vie, moi, où je dessinais tout le temps, où je savais que je voulais faire ça, gagner ma vie avec le dessin. Et j'essayais depuis que j'étais enfant, et ça ne marchait pas, j'arrivais jamais à rentrer dans les écoles d'art. Et parallèlement, j'avais mes problèmes de cœur, de cul, de punaise de lit, d'avortement. Et bref, c'était une période où j'ai fait une petite dépression et où j'étais un peu bulldozer, c'est-à-dire que j'avais très peur que cette phrase « on ne fait pas toujours ce qu'on veut dans la vie », ça s'applique à moi, et je n'avais pas envie du tout de ça.
Pourquoi transformer la dépression en film plutôt drôle, plutôt comique ? C'est pour pas déranger les autres ? C'est parce que quand on est dépressif, on est malgré soi drôle ?
C'est parce que je pense qu'on l'un n'empêche pas l'autre, quoi, et que vrai. J'aime ça beaucoup dans la vie, comme ça se cogne ces moments tristesse et humour, même en faisant une dépression, on peut rire quand même de soi. Et moi, c'est aussi en tant que spectatrice, en tant que lectrice, où, voilà, j'aime observer ça, les choses qui ne sont pas tranchées et qui peuvent aller d'une sensation, d'un sentiment à l'autre, quoi, des pleurs au rire. Et voilà, quoi, qu'il n'y ait pas une étiquette.
Vous dites quelque chose de très joli à propos de ce film. Vous dites qu'il est personnel et pas autobiographique. Donc, comme vous venez de plus ou moins de l'expliquer, c'est donc un peu votre vie, mais transposée. C'est un peu comme Flaubert, Madame Bovary, c'est moi.
Oui, c'est ça. Mais parce que ça devient forcément une fiction à partir du moment où on essaye de faire rentrer ça, enfin d'en faire un scénario. Donc moi dans ce film-là, aucun personnage qui est tel quel quelqu'un. C'est plutôt un patchwork que j'ai cousu avec des bouts de tissu qui viennent de choses personnelles. Et la trajectoire de Sarah Forestier dans le film, c'est pas exactement la mienne. C'est l'univers que j'ai connu, c'est un peu les jobs que j'ai eus, serveuse, assistante, secrétaire, attachée de presse dans une maison d'édition. Mais c'est pas comme ça que ça s'est passé tout à fait. Enfin, il y a des portions de très réelles, des fois qui sont recousues dans d'autres façons. Enfin voilà, ça donne un nouveau canevas.
Pour avoir déjà reçu des auteurs ou des autrices de BD, ils disent toujours qu'en fait une BD, vraiment ce qu'on pourrait imaginer, c'est pas facile à transposer au cinéma. Vous avez voulu, comme vous le disiez tout à l'heure, créer quelque chose de nouveau. Mais est-ce que par exemple vous l'aviez dessiné ? Est-ce que vous aviez dessiné le film avant de le filmer ?
Non, pas du tout. J'ai fait un storyboard, mais moche, c'est-à-dire vraiment efficace. D'ailleurs, j'ai bien prévenu tout le monde que j'allais pas faire au détour d'un storyboard une BD à publier en 2023. À partir du moment où je le filmais, j'avais pas du tout envie de le dessiner. Et en plus, j'ai écrit des situations qui sont pas les mêmes que si je les avais dessinées. J'ai vraiment écrit des choses que je voulais voir jouer, en me disant que, comme c'était ma première réalisation, en plus qu'il fallait que j'ai très très envie de tout ce qui se passe et que je me sente de le mettre en scène. Donc c'était un peu une condition sine qua non, mais qui éclipsait le dessin. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que pendant le film, il m'arrivait qu'on me demande de dessiner, par exemple pour annoncer la sortie du film dans le film français ou je sais pas quoi. Et j'étais extrêmement mauvaise en dessin à cette période. C'est-à-dire vraiment comme si j'avais qu'un seul cerveau et qui pouvait faire qu'une chose en même temps. Donc voilà, là j'étais en mode réalisatrice.
Mais pardon, vous dites qu'on est venu, vous disiez tout à l'heure qu'on est venu vous chercher finalement en vous demandant d'adapter votre première BD. Le cinéma, c'était pas quelque chose, une envie pour vous ou...
Si, complètement, mais je pensais pas que ça se devinerait en fait. Mais c'est vrai que j'ai eu cette chance-là. En fait, j'avais été contactée 2-3 fois par des producteurs ou réalisateurs à cette période, et c'était ma troisième BD. Et je pense que ça venait du fait que moi, je suis venue à la bande dessinée, mais comme si je faisais mes propres films. C'est-à-dire que j'ai beaucoup aimé le cinéma est rentré dans ma vie quand j'avais 16-17 ans en tant que spectatrice, et puis ensuite j'ai bossé sur des courts-métrages quand j'avais 18-19 ans avec des collègues serveurs chez Pizza Hut où je travaillais à Opéra, et pas du tout sur les bancs de la fac de Saint-Denis où j'étais en cinéma. Et donc à 18-19 ans, j'ai bossé sur 5 ou 6 courts-métrages, mais vraiment à l'arrache. Mais par contre, ça a été un déclic d'être sur le tournage et d'être à tous les postes, à faire comme je pouvais, quoi, parce que je découvrais, mais c'était plus l'ambiance et d'être de ce côté-là du cinéma qui m'a beaucoup plu. Mais par contre, c'est vrai que je me pronostiquais pas réalisatrice. Je me voyais assistante réalisatrice et ça me bottait, quoi. Et en fait, c'est par le dessin que les histoires sont venues ensuite par la bande dessinée. Donc en fait, je me suis d'abord trouvée en tant qu'autrice avant de me trouver en tant que réalisatrice.
Dans ce film, il y a, et ce n'est que mon avis, comme on dit sur Facebook, mais j'y tiens, c'est mon avis, il y a l'actrice la plus merveilleuse du monde, Sarah Forestier, celle qui, depuis L'Esquive, du Nom des gens, ou encore de Roubaix, Une lumière de Desplechin, illumine tous les films où elle joue. Est-ce que c'était l'actrice que vous vouliez avoir à tout prix? Est-ce que le personnage, c'était elle? Ou est-ce que finalement, ça aurait pu être quelqu'un d'autre?
Bah non, en fait, je me rends vraiment compte que le personnage, c'était elle. Mais ça a été... Il y a eu d'abord un petit détour, parce que en fait, elle était tellement proche du personnage qu'au départ, je me disais, non, mais il faut que je trouve une idée un peu incongrue, quoi, quelque chose de moins évident. Et en fait, je me rends compte à quel point je me facilitais pas la tâche, et qu'une fois que j'avais rencontré Sarah, c'était impossible de me dire autrement, quoi. Mais c'est vrai qu'il y a toujours quelque chose qui m'a vraiment attiré en elle, dans son caractère, dans quelque chose qu'elle dégage à la ville comme à la scène, quoi. Enfin, elle est très très engagée, très là, très corporelle, très très grande gueule, très
elle a, ouais, elle y va, franchement, elle n'hésite pas, quoi, dans le film, hein. Elle y va.
Ouais, elle y va, et en même temps, elle a vachement de douceur aussi. Et en fait, c'est juste que chaque millimètre, chaque portion, elle en fait quelque chose. Et c'est pas non plus dans l'outrage. Elle en fait pas trop, mais elle est vraiment très incarnée, très réelle. Et moi, c'est vraiment ce qui m'a plu. Et avec Laetitia Doche aussi, mais qui est dans un autre type de jeu. On filme, ouais. Laetitia un peu plus maniérée. Sarah Forestier est plus dans le naturalisme. Mais voilà, elle a quelque chose on a envie de mordre dedans, quoi.
La Relève, sur Radio Campus Paris.
On est toujours avec Nina Antico, réalisatrice et co-scénariste de Playlist au cinéma depuis le 2 juin dernier. On parlait de mordre dans Sarah Forestier. Je vous laisse la responsabilité de ces propos. Je plaisante, bien sûr. Dans ce film, on parle de dessin, mais on parle aussi de garçon, mais surtout aussi de musique, je trouve. Elle était importante pour vous rien que le titre parle aussi de musique. C'était quel rôle joue la musique dans votre vie?
Moi, un rôle très important, parce que ça m'a vraiment permis de me déterminer, enfin de me tracer une espèce de voie. Je trouve ça très beau dans la musique, comme on a celle de où on est né, de notre environnement, et qu'on peut s'y jeter dedans les bras ouverts, quoi. Bon, en l'occurrence, c'était le rap, le R&B, mais plutôt à travers la radio, quoi. Génération, Ado FM, Fun Radio. Et vers la vingtaine, j'ai découvert un autre style que je ne connaissais pas, qui était le rock des années 60, d'abord, via Bob Dylan, de Velvet Underground. Et ensuite, en fait, ça correspondait à une espèce de renouveau aussi de la folk, les années 2000, où j'ai commencé beaucoup à sortir en concert. Donc il y avait une scène pop, folk, pop rock, et puis il y avait cette musique indépendante qui correspond en fait à une façon de s'autoproduire, de s'autoproduire, de subvenir soi-même à ses besoins en fait, qui allait de pair, que j'avais envie de montrer dans le film, et comme une façon voilà de devenir quelqu'un aussi, puisque ça correspond à la trajectoire du personnage de Sarah Forestier qui finit par s'autoproduire en tant que créatrice, de la même façon que je l'ai faite. Donc voilà, la musique, voilà, elle a réuni plein de choses et elle a guidé mes choix amoureux.
Et elle a aussi guidé peut-être la narration de ce film, qui par ailleurs est en noir et blanc, ce qui contribue aussi à le rendre difficilement... datable, hein, je cherche une manière plus élégante de le dire. On a beaucoup de mal à savoir à quelle époque ça se passe, parce que c'est des morceaux un peu atemporels que vous avez choisis.
Oui, ouais, c'est volontaire que le noir et blanc, que je trouve super graphique, en fait très gracieux, qui illumine la modernité, et qui me permettait pour un premier film de pas avoir à gérer ce problème de la couleur qui peut devenir satisfaisant, mais qui est une vraie tâche à considérer. Et voilà, je m'en sentais pas les épaules, d'autant que je trouvais le noir et blanc très beau et qu'il donnait ce voile donc flou, ce flou sur à quel moment se passe le film. Alors certains me disent mais il n'y a pas de téléphone portable et ça, en fait si, je gomme pas, mais c'est vrai que je mets pas l'accent dessus, donc j'essaie de faire en sorte que ça puisse être à n'importe quel moment, parce que pour moi ce qui se passe dans le film, alors certes il y a des discussions assez contemporaines, enfin sur l'orgasme etc, ou l'avortement, je pense pas qu'on en parlait de manière aussi libérée dans les années 20, 30 ou 50, quoi. Mais par contre, cette quête de liberté, de trouver sa voie, elle est de tout temps, quoi. Et j'adore, dans les projections que je fais des fois pour accompagner le film, voir des femmes de 60, 70 ans qui me disent « je me suis reconnue, c'est moi, Madame Fouarine, c'est moi, quoi. » Et je trouve ça magnifique. Il y a des hommes aussi qui viennent me voir, mais ils me disent « moi, c'est moi », mais ils sont... Voilà, ça c'est... Je fais en sorte aussi que... de donner envie aux hommes d'aller voir ce film, qui ne se disent pas que c'est un film de gonzesse.
La preuve, vous dites que vous êtes féministe, je crois. En voyant ce film, j'ai trouvé ça surtout frappant dans la manière dont vous regardez les hommes. À la fin du film, il y a des plans d'Andranik, j'arrive pas bien à dire son nom, pardon, Andranik Mané. Je crois qu'aucun homme ne l'aurait filmé comme vous l'avez filmé, vous. C'était volontaire ?
Eh bien, j'avais hyper envie de filmer un homme en train de jouer, mais je pense qu'on a... Je ne sais pas si ça s'est jamais vu, je ne pense pas, je pense que c'est ça. Mais de conclure sur un gros plan, sur cette image qu'on a soi-même quand on fait l'amour avec quelqu'un, quoi. Je trouvais ça... je trouvais ça beau. Et puis Andranik, il a vraiment un visage... Et il incarne un personnage qui porte une sensibilité, enfin qui se transforme dans le film. D'abord, quand il arrive, on mise pas trop sur lui, et puis il s'étend, il bouge beaucoup, quoi, dans la perception qu'on a de lui, quoi. Et ça jusqu'au bout du film. Donc c'est ça aussi que je voulais montrer.
Et vous pensez que vous avez aussi montré une femme autrement, parce que là on voit que vous avez un regard sur les hommes, mais sur les femmes.
Autrement, bah oui et non, c'est-à-dire que moi, c'est très proche de moi, c'est très proche des gens qui m'entourent, donc j'ai l'impression d'être dans quelque chose d'assez familier, quotidien, donc je me rends pas compte de ça. C'est plutôt de faire de la chronique du quotidien quelque chose d'essayer de faire quelque chose de poignant et de drôle et de donner du charisme au banal, en fait. C'est ça ma dimension. Et après, le personnage, pour moi, c'est mon cercle, quoi. Donc j'ai pas l'impression d'inventer quelque chose.
Juste en deux secondes pour terminer, vous êtes contente des entrées, ça se passe bien malgré la période un peu difficile pour vous?
Eh bien, moi, je suis très contente. Après, c'est vrai que les entrées, de manière nationale, elles sont pas dingues parce que bah, c'est bien compréhensible. Il fait très beau. On a plutôt envie d'être en terrasse que dans une salle de cinéma. Donc voilà, les entrées sont pas faramineuses pour tous les films, quoi.
Il y a des jauges en plus qui rendent pas ça facile, ouais.
Mais sinon, moi, je suis vraiment très touchée par le fait que j'ai des vrais retours de personnes qui m'écrivent via les réseaux après avoir vu mon film. Et ça me fait vraiment très plaisir, quoi.
Eh bien, on conseille à tous ceux qui nous auront écoutés de courir au cinéma, peut-être pas ce soir, peut-être demain, dans la semaine, pour aller voir Playlist de Nine Antico. Merci d'avoir été avec nous ce soir. Au revoir.
Merci à vous. Au revoir.
C'était La Relève, proposée, préparée, présentée par Christophe. La réalisation était signée Colin, ça s'entend tout de suite. À 19h, vous retrouverez la matinale de 19h. Ce soir, elle est présentée par quelqu'un. J'ai pas son nom, donc je ne pourrais pas le dire. En attendant, vous retrouvez le programme musical de Radio Campus Paris. À la semaine prochaine.